France Info.
Plus calme.
Merci Christine Peña. Vous écoutez France Info, il est 5h. C'est une nouvelle conséquence de l'affaire Epstein. Jack Lang est convoqué au Quai d'Orsay à la demande de l'Élysée et de Matignon. Le collégien qui a poignardé une professeure à Sanary a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'enseignante est dans un état qui reste préoccupant. Après des mois de tensions et les menaces d'intervention militaire américaine, Washington et Téhéran lancent aujourd'hui des négociations sur le nucléaire au Sultanat d'Oman. Et le rugby avec une entrée en lice idéale pour le 15 de France. Une large victoire 36-14 sur l'Irlande au Stade de France. Et puis, c'est ce soir le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Jack Lang est donc convoqué au Quai d'Orsay après la révélation de ses relations avec Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel américain. Le directeur de l'Institut du Monde Arabe assure qu'il ne connaissait pas le passé criminel du milliardaire américain et il refuse de démissionner de son poste malgré les appels de plus en plus nombreux et de plus en plus pressants. Audrey Tison.
L'Élysée et Matignon ont demandé au ministre des Affaires étrangères de convoquer Jack Lang et de lui demander de penser à l'institution. Fait savoir l'entourage d'Emmanuel Macron. Dans la foulée, le Quai d'Orsay s'exécute et convoque le président de l'Institut du Monde Arabe. Pas de précision sur la date ni sur la teneur exacte du message, mais le ministre des Affaires étrangères est le seul à avoir une tutelle sur l'IMA, musée financé pour moitié par le Quai d'Orsay. Le reste des revenus provient des tickets d'entrée et de plusieurs pays arabes. Depuis 48 heures, la pression monte autour de Jack Lang. Les appels à la démission se multiplient, essentiellement de la part de ses anciens camarades socialistes, Ségolène Royal, Jean-Christophe Cambadélis et Olivier Faure. L'actuel premier secrétaire du PS se dit heurté par la façon dont Jack Lang évoque aujourd'hui le personnage Epstein. Non, ce n'est pas un homme charmant, mais un pédocriminel.
Audrey Tison du service politique de France Info. Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens, dont la Pologne, l'Allemagne ou encore la Suisse. Plusieurs centaines de lots sont concernés, dont près de 120 en France, où une vingtaine de références de lait Gallia et Blédilet sont citées par le site officiel Rappel Conso. Des rappels qui font suite à la mise à jour par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des recommandations concernant le seuil toléré de la céréulide, cette toxine pouvant provoquer diarrhées et vomissements. C'est le rappel par Nestlé de dizaines de lots de lait de différentes marques dans une soixantaine de pays depuis la mi-décembre, qui a déclenché ensuite une cascade de rappels similaire. Et à ce stade, les enquêtes pénales ouvertes en France après la mort de deux nourrissons ayant consommé des laits infantiles n'ont pas établi de lien direct entre les symptômes et les produits consommés. La professeure poignardée en plein cours mardi à Sanary-sur-Mer par un collégien reste ce matin hospitalisée dans un état préoccupant. L'élève a lui été mis en examen et placé en détention provisoire. Le procureur de la République a décrit un adolescent difficile à cerner. Le récit de l'envoyé spécial de France Info, Antoine Niffaut.
Ce sont les deux faces d'un même adolescent que dessine le procureur au cours de cette conférence de presse. D'un côté, il y a celui qui prémédite, qui prend son opinel de 12 cm avec la volonté de passer à l'acte, raconte Raphaël Ballan.
Il affirme que toute la matinée du jour des faits, il n'avait pensé qu'à une seule chose, assassiner, je le cite, sa professeure. De fait, les investigations ont démontré qu'il avait effectué des recherches sur Internet sur les risques judiciaires encourus par un mineur qui tuerait sa professeure.
Ce collégien dit avoir senti monter sa haine contre l'enseignante, auteur de la moitié des rapports le concernant pour signaler ses bavardages ou ses retards. Et puis d'un autre côté, il y a celui qui regrette, qui parle d'un coup de folie, qui voulait juste, je cite, lui faire mal et qui dit aujourd'hui avoir des pensées suicidaires. Margot Albertini-Loiseau, son avocate.
L'essentiel aujourd'hui pour mon client et ce qui lui importe le plus, c'est la victime. Pour lui, le plus important, c'est qu'elle survive et qu'elle puisse se battre pour sa survie.
Vu son jeune âge, 14 ans, l'instruction ne peut durer qu'un an. Pendant ce temps-là, la justice va s'intéresser à l'aspect psychiatrique du collégien, à son milieu familial compliqué. Ses parents sont soupçonnés d'avoir été violents avec sa petite sœur, eux qui ne comprennent pas, selon le procureur, le geste de leur fils, qu'ils dépeignent comme un garçon calme et gentil.
Antoine Liffaut. Le militant anti-narcotrafic marseillais Amine Kessassi a dû être exfiltré d'un meeting à Aix-en-Provence hier soir par ses gardes du corps pour raison de sécurité. Il était venu soutenir le candidat socialiste à la mairie d'Aix pour les municipales, Marc Pena. Il est lui-même candidat sur la liste du maire sortant de Marseille, Benoît Payan. Et il est sous protection policière depuis l'assassinat de son frère Mehdi à Marseille début novembre. Le ministre des Transports désigne deux médiateurs pour mener une consultation avec les acteurs concernés par la grève qui perturbe perturbe le transport maritime entre Marseille et la Corse depuis lundi. À l'appel de la CGT des marins de Marseille, l'accès nord du port est bloqué. Le syndicat dénonce l'expansion de compagnies qui opèrent sous pavillon international sur les lignes du Maghreb et certaines dessertes avec la Corse. France Info, il est 5h05. Après des mois de tensions, négociateurs américains et iraniens doivent se retrouver aujourd'hui à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. Au menu, l'accord à trouver sur le programme nucléaire iranien. Depuis longtemps, Oman joue un rôle de médiateur discret mais efficace. Christian Chesneau.
La diplomatie omanaise a toujours préféré l'ombre à la lumière. C'est d'ailleurs l'une des clés du succès de ces médiations dans le dossier iranien, mais aussi dans des affaires d'otages au Yémen. La force d'Oman, c'est d'avoir la confiance des États-Unis et de l'Iran. Ce n'est pas un hasard si Téhéran a refusé d'organiser ces discussions à Istanbul comme envisagé initialement. La République islamique apprécie la fiabilité et l'indépendance de son voisin du sultanat d'Oman. Les Iraniens n'ont pas oublié que pendant la guerre Iran-Irak des années 80, Mascate, à la différence de la majorité des pays arabes, n'avait pas rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran. Plus récemment, les négociations entre Américains et Iraniens, qui avaient débouché sur l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire, avaient été abritées dans la capitale omanaise dans le plus grand secret. C'est encore à Mascate qu'ont eu lieu en juin dernier 5 sessions de discussion entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Abbas Araghchi, le patron de la diplomatie iranienne.
Christian Chesneau, J-5 pour Sophie Adenau. L'astronaute française va bientôt quitter la Terre, direction la Station Spatiale Internationale. Elle doit faire aujourd'hui le transfert entre Houston au Texas, où elle est en quarantaine, pour rejoindre le pas de tir de Cap Canaveral en Floride, d'où elle décolle le mercredi. Sophie Adenau qui a répondu hier en visioconférence aux questions de collégiens et de lycéens réunis à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Boris Allier.
Sophie Adenau apparaît à l'écran tout sourire.
Bonjour Sophie, ça va ?
Excellent. L'équipage est en grande forme, il n'y a plus qu'à y aller.
L'ingénieur de 43 ans, ancienne pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air, va bientôt réaliser la mission de sa vie et devenir la deuxième française à voyager dans l'espace après Claudie Aigneret.
Le décollage de Claudie Aigneret, j'avais 14 ans et depuis je me suis dit je vais travailler en chemin vers ça. C'est pour ça, les jeunes qui avaient un rêve en tête, vous allez entendre sans doute plein de fois, comme je l'ai entendu des milliers de fois, dans tes rêves, n'importe quoi, ça n'arrivera pas, c'est statistiquement impossible. Je suis là pour vous dire qu'on lâche rien et c'est comme ça que ça arrive.
Elle aussi devient donc une source d'inspiration pour Anna et Célestin, 14 ans tous les deux.
Bah, c'était assez ouf d'avoir l'occasion de la voir, même si c'était sur un écran.
Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été intéressée par l'espace. Tout d'abord par, bien sûr, Neil Armstrong, qui était mon premier mentor, et puis après par Thomas Pesquet. Et je serais très heureuse d'être à leur côté un jour.
T'as ouais. Commencé l'entraînement ?
Non, pas encore, mais j'apprends le russe et le chinois.
Pour Sophie Adenau, l'entraînement s'est bien terminé. Place au lancement, mercredi prochain, le début d'une mission de 8 mois à bord de la Station Spatiale Internationale.
Boris Allier, il est 5h08. Le rugby, entré en lice réussi pour l'équipe de France dans le tournoi des 6 nations. Les Bleus ont largement battu l'Irlande dans le match d'ouverture avec une victoire 36-14 au Stade de France. Soirée marquée par le retour en match international d'Antoine Dupont. Dans quelques minutes à 5h10, on est avec le consultant rugby de France Info, Guy Akosseberry. Et même si quelques compétitions ont déjà commencé, le vrai coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, c'est ce soir avec la cérémonie d'ouverture. À partir de 20h, on estime que 2 milliards de téléspectateurs vont la suivre, cérémonie qui aura la particularité de se tenir sur plusieurs sites différents à Rome. Pour France Info, Bruno Duvic.
À Paris, c'était sur la Seine. En Italie, ce sera dans 4 endroits différents. Ces jeux sont éclatés dans des sites très éloignés. Impossible de rassembler les athlètes à Milan pour le défilé. Il se fera donc aussi à Cortina, Livigno et Predazzo, lieu de compétition. Pour le maître de la cérémonie, Marco Balich, tout se jouera dans la réalisation télé.
Certains pays comme le Bénin ou l'Équateur ont peu d'athlètes et à des endroits différents. Parfois, un seul athlète. Vous devez imaginer un défilé de mode avec les personnes qui arrivent face à vous. L'idée est de passer en douceur d'un endroit à l'autre.
Mais c'est au stade de San Siro que sera l'essentiel du spectacle. En bande son, un classique de la chanson repris par Maria Carey, le DJ milanais Mace et les tableaux hommage à la culture de l'Italie, une partie des intervenants vêtus en Armani. Non pas Giorgia Meloni, mais le président de la République Sergio Mattarella. Pour déclarer les Jeux ouverts, ils seront deux pour allumer les vasques olympiques à Milan et Cortina. Parmi les favoris, Alberto Tomba, ancienne gloire du ski, à l'issue d'une cérémonie où l'on entendra la voix d'une autre gloire éternelle de l'Italie, Luciano Pavarotti.
Bruno Dubic et la cérémonie d'ouverture de ces Jeux d'hiver à Milan Cortina à partir de 20h ce soir. Tout de suite, il est 5h10, c'est la météo avec Christine Peña et une fin de semaine un peu plus calme.
Un peu plus calme, oui. D'ailleurs en montagne, pour les JO, on ne devrait pas avoir de neige fraîche pour ce week-end. Attention au regel toutefois, puis peut-être quelques brouillards. Voilà. Sinon, nous avons ces pluies qui circulent encore aujourd'hui, qui sont en train de s'évacuer. On va vers des éclaircies. On en profitera surtout dans le sud-ouest d'ailleurs, samedi et puis dimanche. On devrait avoir de nouveau des pluies soutenues, notamment dans le sud. Au nord, le temps restera un peu plus calme avec des nuages. Et puis la semaine prochaine, en revanche, ce courant océanique perturbé devrait reprendre de plus belle.
La météo avec Christine Peña.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Le monde d'Élodie, c'est dans une dizaine de minutes. Dans un instant, on revient d'abord sur la victoire du 15 de France dans le match d'ouverture du tournoi Destination avec le consultant rugby de France Info, Guy Acocéderi.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Il est 5h11, l'équipe de France de rugby a largement battu l'Irlande en ouverture du tournoi Destination. Les Bleus se sont imposés 36-14, entrée réussie pour le 15 de France, qui voyait aussi le retour en match international d'Antoine Dupont. Match référence pour la suite du tournoi et l'analyse à chaud hier soir en direct du Stade de France avec Vincent Pellegrini du service des sports de France Info et le consultant rugby Guy Acocéderi.
C'est une entame très, très réussie, hein. Victoire contre les Irlandais avec le point de bonus offensif. 5 essais marqués, de beaux essais, 3 en première mi-temps. Vous l'avez dit, hein, dont 2 de Louis Bielbiaré, hein, son 21e et 22e en bleu. 22-0 à la mi-temps, 29-0. Après, c'est vrai que les Irlandais, c'est l'équipe d'Irlande. Hein, elle a eu les ressources, la volonté pour revenir un petit peu au score. Et puis, l'équipe de France a quand même jamais vraiment, vraiment tremblé. Puis, à ce dernier essai, hein, de Théo Atisogbe, on peut dire effectivement, Guy Acocéderi, que l'équipe de France a rendu une très belle copie en ouverture de ce tournoi.
Oui, on l'espérait. Après, on craignait un peu par rapport aux conditions climatiques avec cette pluie présente là qui était plus pour aider les Irlandais. Et en fait, malgré ces conditions, là, oui, l'équipe de France, dans tous les secteurs, et on l'a dit pendant la retransmission, très disciplinée, très bonne défensivement, très bonne en conquête. Je crois qu'il n'y a aucun ballon perdu, que ce soit en touche ou en mêlée. Et après, on attendait surtout le secteur offensif avec les changements apportés par Fabien Galthié, l'entrée de Mathieu Jalibert, le retour de Yoram Moefana, de Nicolas Deporter. Donc voilà, il y avait une ligne de trois quarts qui était, même si elle se connaît bien puisque tous ces joueurs jouent ensemble à l'Union Bordeaux-Bègles, c'était nouveau dans le système de cette équipe de France. Et en fait, l'équipe de France, moi je trouve, est en train de travailler un nouveau système offensif parce qu'elle a tenté beaucoup de choses, elle a marqué de beaux essais. Alors oui, il y a toujours eu, comme il y a eu les mois précédents, les années précédentes, des exploits individuels, on pense surtout à Louis Bielbiaré, mais il y a eu aussi de beaux essais très collectifs avec du jeu dans la ligne adverse, avec des ballons lâchés au contact, on va pas tout le temps au sol, enfin voilà, on retrouve un peu le jeu de Toulouse, le jeu de l'UBB, le jeu de la section paloise, qui sont les trois équipes qui dominent le top 14. Donc ça devient un jeu très, très agréable. Je pense que les joueurs prennent beaucoup de plaisir. Les joueurs comme Antoine Dupont ont l'habitude en plus de pratiquer ce jeu, donc je pense qu'ils s'y retrouvent un peu plus. Et puis l'équipe de France devient beaucoup plus dangereuse parce que là ce n'est qu'un début. Je pense que si en répétant ce genre de mouvement, ce genre de match, elle va continuer à progresser offensivement et ça peut devenir une véritable arme en vue, j'y reviens et j'en parle à chaque fois, mais c'est l'objectif d'être champion du monde dans 18 mois.
Et puis il faut rappeler, Julien, ces premiers matchs du tournoi, c'est toujours un petit peu délicat. Et finalement, on a vu une équipe de France bien en place, avec des automatismes, avec une bonne cohésion collective.
Oui, alors, Guy est déjà à la Coupe du Monde, hein, c'est quand même dans 18 mois, mais
l'Australie, c'est loin.
C'est loin, oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on peut aussi souligner la discipline? Je ne sais pas si c'est un élément très marquant, mais Vincent Pellegrini, vous l'avez rappelé assez souvent pendant le match, il n'y a pas eu énormément de pénalités pendant cette rencontre. Est-ce que Fabien Galthié a particulièrement insisté là-dessus, sur le fait de ne pas commettre de fautes faute d'être particulièrement discipliné, ou alors c'est juste l'histoire d'un match?
Non, je pense que c'était un des axes de travail important pour Fabien Galthié, il l'avait dit, et c'est vrai que l'équipe de France sur ce match a été assez exemplaire, hein, zéro pénalité en premier temps, quatre seulement en deuxième. Donc c'est vrai que de toute façon c'est un facteur à ce niveau de compétition, la discipline c'est essentiel de toute façon.
Oui, ça rentre dans la préparation des matchs. Après chaque match, dans les analyses, on regarde combien de fois a été pénalisée l'équipe, et on dit dans les standards qu'une équipe qui est pénalisée plus de 10 fois sur un match international aura du mal à gagner le match. Donc ça fait partie du travail du staff et des joueurs. Après, en général, on fait moins de fautes quand on est dominateur, quand on est comme l'équipe de France ce soir, quand on est dans l'avancée, quand on a plus le ballon que l'adversaire. Voilà, c'est quand on est plus fort physiquement, quand on est plus rapide, ce qui était le cas ce soir de l'équipe de France par rapport à cette équipe d'Irlande. Donc quand on est dans ces conditions-là, automatiquement on fait moins de fautes, et l'équipe de France l'a fait ce soir, et c'est très bien.
Bon, réponse un petit peu normande, donc on travaille dessus, mais c'est aussi l'histoire de ce match, et vous avez évidemment raison de le rappeler, Guy Akosseberry. Alors est-ce qu'on peut dire, messieurs, pour conclure, que la France désormais a un chemin tout tracé jusqu'au dernier match de ce tournoi France-Angleterre, ce sera au Stade de France, pour peut-être aller chercher un grand chelem dans ce tournoi destination. Je sais, je mets un peu la charrue avant les bœufs, j'exagère. Mais bon, allez, alors, le 11e, c'est jouable.
Oui, on regarde le calendrier, si vous le voulez bien.
Allez.
Alors, dans 10 jours, hein, ça sera un dimanche après-midi, Pays de Galles-France. Franchement, vu l'état du rugby gallois, on voit mal les Bleus s'incliner à Cardiff. Ensuite, réception de l'Italie. Bon, normalement, l'équipe de France a largement les moyens de s'imposer.
Ce sera à Lille, mon avis, je le précise.
À Lille, oui. Tout à fait. Le prochain écueil...
Au-dessus de la Normandie.
Le prochain écueil, Guy, le prochain écueil avant l'Angleterre, ça sera un déplacement en Écosse qui sera difficile.
Oui, bon. Pour moi, le tournoi va se jouer, comme le disait Vincent, par rapport au programme. Là, les deux week-ends à venir vont être des week-ends pour continuer à roder l'équipe, à monter en puissance. Après, il y aura ce petit week-end de repos qui va faire du bien. Et puis après, les deux derniers matchs sont pour moi les deux plus gros matchs de ce tournoi. Parce que l'Écosse, quand on voit les provinces écossaises en Champions Cup, le niveau de Glasgow, d'Edinburgh, de Glasgow surtout.
Et l'Écosse qui a fait une belle tournée d'automne.
Elle a fait une très belle tournée d'automne. Donc ça sera un peu la demi-finale à Edinburgh, début mars, et voilà, si on passe le cap d'Edimbourg, après, mais oui, une finale pour contre l'Angleterre ici au Stade de France, et peut-être une victoire ou un grand chelem au bout.
Le consultant rugby de France Info, Guy Akosseberry, avec Vincent Pellegrini et Julien Langlais. France Info, il est 5h18, c'est une information de la cellule investigation de Radio France. Des pesticides interdits proposés notamment sur le site internet de Leroy Merlin. L'entreprise de bricolage et de jardinage a été rappelée à l'ordre il y a quelques mois par les services de l'État. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Avec Anne-Laure Barral, vous avez enquêté sur les trafics de pesticides en France. Vous avez découvert l'existence de ces annonces illégales du glyphosate vendu sur le site de Leroy Merlin, un herbicide interdit pour les particuliers depuis 2019.
Il y avait beaucoup de glyphosate, assure un enquêteur. Des bidons en vente sur la marketplace de Leroy Merlin, une boutique en ligne où des vendeurs postent directement leurs annonces. Situation exceptionnelle, se défend l'entreprise qui reconnaît l'existence, malgré ses contrôles, d'un vendeur problématique avec, je cite, « quelques produits à base de glyphosate, ils ont été retirés ».
Et ce cas est loin d'être isolé.
En 2025, l'Office français de la biodiversité a identifié près de 13 000 acheteurs qui se fournissaient sur des sites comme Le Bon Coin, eBay ou Rakuten, profils très variés, un agent SNCF, un ambulancier et même le cadre d'un syndicat des eaux. Nous l'avons rencontré.
Enchanté.
Comment je vous appelle ?
Monsieur Glyphosate.
Cet homme de 57 ans a acheté en 2022 un bidon de 5 litres, alors que son travail à l'époque, c'était de veiller à la qualité de l'eau potable dans son secteur. Et qu'il savait très bien que la loi lui interdisait, en tant que particulier, d'acheter cet herbicide.
Oui, bien sûr, je la connaissais, je me suis pas... Voilà, parce que j'en avais besoin. C'est un produit pour moi, personnellement, que j'utilise dans mes allées ou dans mon jardin potager, en fin de saison. Pour détruire toutes les mauvaises herbes, on met un coup de glyphosate partout sur le terrain, on attend une bonne semaine, 15 jours, ça jaunit, on laboure et le terrain est tout propre. On n'a pas de repousse. Je vous rappelle que le glyphosate n'est pas interdit pour les agriculteurs. Donc on l'utilise toujours. Si c'était vraiment si dangereux que ça, il n'y aurait plus d'agriculteurs, ils seraient tous morts.
Le glyphosate interdit aux particuliers, mais en effet, il peut être utilisé par les professionnels.
Et c'est l'herbicide le plus vendu au monde, même s'il est classé cancérogène probable par l'OMS. C'est sur cette ambiguïté, autorisation pour les uns et pas pour les autres, qu'a joué pendant des années Idir Gizem, considéré aujourd'hui comme l'un des plus gros fournisseurs de pesticides interdits aux particuliers en France.
Je trouve que c'est pas clair du tout, voilà. Et les cancérogènes, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. On arrête. Et les Bayer, c'est lui le fabricant, c'est lui qui fabrique le glyphosate.
Ce qu'on vous reproche à vous, c'est d'avoir vendu à des particuliers.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je préfère le vendre aux particuliers. C'est quoi le particulier? Il va le mettre à son jardin. C'est l'injustice qui m'étonne. Aujourd'hui, les oiseaux, les animaux, elles ont la justice. Monsieur Idir Gizem, il n'a pas de justice.
Idir Gizem a été condamné en appel en janvier à 2 ans de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Il réfléchit à un pourvoi en cassation avec un autre vendeur basé en Espagne. Il a vendu près de 30 000 litres de glyphosate, de quoi traiter l'équivalent de 15 000 terrains de football.
L'enquête de la cellule investigation de Radio France a retrouvé en intégralité sur franceinfo.fr et sur l'appli Radio France. Dans les prochaines minutes, la suite des reportages de France Info avant les municipales. Ce matin à Saint-Ouen et d'abord l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h21, c'est avec Diane Ferschit. Bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Le premier titre de ce vendredi, un deuxième homme mis en examen dans l'affaire Betarame.
Mis en examen pour viol par personne ayant autorité, l'ecclésiastique de 63 ans n'avait jamais jusqu'ici été entendu. L'établissement privé du Sud-Ouest Notre-Dame de Betarame est visé par près de 250 plaintes d'anciens élèves, plaintes pour l'essentiel prescrites à cause de l'ancienneté des faits. L'Élysée demande à Jacques Lang de penser à l'Institut du Monde Arabe, établissement culturel qu'il préside depuis 13 ans. Jacques Lang convoqué au Quai d'Orsay après des révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein. L'ancien ministre de la Culture assure qu'il ignorait tout du volet criminel de la vie du financier américain. Deux départements, le Finistère et la Gironde, en vigilance orange aux crues. Les Alpes-Maritimes et la Corse sont quant à eux en vigilance orange pour vagues submersion. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan Cortina ce soir avec cette nouveauté, une parade des nations qui se fera sur 4 lieux de la compétition. Cérémonie qui débutera à partir de 20h. Ce sera évidemment à suivre en direct sur France Info.
France Info.
À moins d'un mois et demi des municipales, la suite de notre série de reportages sur France Info avec ce matin Saint-Ouen au nord de Paris, ville qui illustre la fracture entre socialistes et insoumis. Le maire PS Karim Bouamran compte bien conserver son siège que LFI rêve de lui enlever à Saint-Ouen pour France Info, Elia Bergel.
Oui, et pour rempiler, le maire sortant Paris sur son bilan et son contact facile avec la population.
Oh, comment ça va?
Bonjour.
Vous allez bien?
Bon, merci pour le soutien.
Ouais, on est ensemble.
Le socialiste dirige Saint-Ouen depuis 2020 et assure avoir transformé la ville.
On a démantelé 6 points de deal sur 7. On a développé une politique de santé active, notamment avec la mutuelle municipale. Et surtout, on a doublé le nombre d'espaces verts, 16 hectares à 32 hectares.
Karim Bouamran, régulièrement arrêté dans les rues de Saint-Ouen pour des poignées de main, notamment par cette mère de famille.
Monsieur le maire, bon, merci pour la force. Vous avez sauvé mes enfants.
Merci. Ah, merci.
Toute une famille.
Merci beaucoup. On a relogé. C'est l'a mis dans un processus de réintégration sociale. Elle a un travail. C'est la gauche du réel.
En opposition, selon le maire sortant, aux idées de sa rivale de gauche.
Bonjour, Manon Montmirel, tête de liste pour la France Insoumise à Saint-Ouen.
Saint-Ouen, illustration des gauches irréconciliables. Les écologistes ne participent pas à la campagne. La section locale se déchire sur fond d'accusations d'homophobie. Le socialiste Karim Bouamran revendique un cordon sanitaire anti-LFI. Et la candidate insoumise Manon Montmirel dénonce une ville à deux vitesses.
On observe qu'il n'y a eu aucune politique volontariste de maîtrise des prix de l'immobilier, ce qui a continué de renforcer la gentrification en poussant certaines personnes issues notamment de quartiers populaires à aller habiter plus loin parce qu'ils n'arrivaient pas à se reloger à Saint-Ouen.
L'insoumise reproche aussi au maire très médiatique une mise en scène excessive sur les réseaux sociaux comme sur TikTok en plein karaoké. Il a des cactus. Beaucoup de communication, pas assez d'action, regrettent certains habitants.
Je vois pas les projets concrets.
Je suis d'accord, on est commerçant à Saint-Ouen et pour l'instant, des projets émergents, des nouveaux projets émergents, il n'y en a pas beaucoup.
Il a surtout fini ce qu'avait commencé l'ancien maire.
William Delannoy, élu maire sous l'étiquette UDI en 2014, après 70 ans de règne de la gauche à Saint-Ouen.
La forme, c'est l'ancien maire qui revient.
En campagne, pour reprendre l'hôtel de ville.
Ça sera dans quelques semaines qu'on saura si les Audoniens veulent revoir un maire à l'hôtel de ville ou s'ils veulent garder un TikToker.
William Delannoy accuse Karim Bouamrane de s'approprier la réussite des projets de l'équipe précédente.
Je pense aux différents groupes scolaires, je pense à la Halle Gourmande. Je ne vois pas de projets aujourd'hui qui ont été initiés par Karim Bouamrane, à part quelques fresques sur des murs. Moi, j'ai monté les murs, lui, il a fait des fresques dessus.
L'ancien maire de Saint-Ouen reproche aux sortants socialistes d'utiliser la ville comme un tremplin pour ses ambitions nationales.
Élie Abergel à Saint-Ouen pour France Info et le conseiller municipal d'opposition, Sébastien Fan, se présente aussi à Saint-Ouen. Il porte les couleurs de la liste Respire Saint-Ouen. À 5h25, le monde d'Élodie avec Élodie Suigo et son invité.
Bonjour Linda Lemay.
Bonjour.
On a parcouru les chemins de tes rêves à mes rêves, tes doigts à mes seins, de ta bouche à mes lèvres.
Vous êtes cette chanteuse québécoise si singulière, unique, à la fois touchante et drôle. Vous avez vendu des millions d'albums avec vos chansons qui vous racontent autant qu'elles nous racontent. Après nous avoir fait vivre un conte de fou, il y a 4 ans, vous avez décidé de partager votre 11e folie sur scène avec 3 arrêts dans la salle mythique de l'Olympia. Donc ce sera les 7, 8 et 9 février 2026 avec en plus un répertoire qui s'agrandit, qui accueille votre dernier album qui sort donc aujourd'hui. À fleur de corde a été construit avec Jean-Félix Lalanne. C'est un face-à-face inévitable entre deux guitaristes aussi fou l'un que l'autre, donc vous avouez, Linda Lemay, une bonne fois pour toutes, que vous avez cette folie.
Oui, ça c'est sûr que la folie, ça ne me quitte pas, puis même que je dirais que ça empire avec les années. Et j'ai découvert qu'avec Jean-Félix Lalanne, effectivement, on avait ça en commun. Cette belle folie qui nous emmène vers plein de projets qu'on aime faire en toute spontanéité. Donc, dès que j'ai rencontré Jean-Félix, le lendemain, on était en studio pour improviser un album. On respirait ensemble. C'est comme si on avait joué de la guitare ensemble toute notre vie. Alors, ça a fait un bel album de chansons souvenirs, des chansons que les gens connaissent bien, mais revues à la sauce Lalanne. Donc, ça donne vraiment une toute nouvelle couleur aux chansons. Et après ça, ben là, j'ai décidé aussi d'offrir des toutes nouvelles chansons au public, des chansons très touchantes pour la plupart.
Ce qui nous cueille toujours, c'est le décalage qu'il y a entre votre sourire et les textes que vous nous livrez. Il y a cette capacité que vous avez à créer votre intimité. D'ailleurs, les deux personnes qui vous accompagnent sur scène ont réussi à appuyer davantage cette intimité. Mais en même temps, vous gardez une forme de pudeur et un jardin secret. C'est quoi la formule magique?
Mais j'ai pas un gros jardin secret. J'en ai un, mais c'est vrai que en termes de pudeur, je suis pas très pudique. Certainement pas armée de mes chansons. J'ose dire en chanson des choses que je suis pas obligée de dire que c'est du vécu. Donc parfois, tu sais, je suis pas obligée de dire ah, celle-là, c'est vraiment de l'autobiographie. Celle-là, c'est juste que j'ai imaginé la chose. Tout fait partie de moi et je me livre énormément dans mes chansons. Donc quand on écoute attentivement, on peut découvrir beaucoup de ce qui pourrait être enfoui dans un jardin secret.
Sachant très clairement que quasiment tout est autobiographique, en tout cas, chaque chanson, peu importe que vous en soyez inspiré au travers des récits des autres, ce son de voix, cette écriture, elle vous correspond. Elle oui. traduit ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire à voix haute.
Oui.
Il y a toujours un cri du cœur, finalement, dans chacune d'elles.
Oui, c'est vrai que c'est comme un besoin pour moi de me confier à travers mes propres histoires, de me confier à travers les histoires des autres. Mais j'ai besoin que les choses soit dite, j'ai besoin d'être lucide à 100% face à cette vie-là qui me surprend puis pas toujours de la bonne façon. Donc, je me dis, mais tu sais, le grand pourquoi? Pourquoi on est là? Pourquoi on vit? Puis c'est quoi qui va rester après? Ces grandes questions-là, évidemment que ça fait partie de mon urgence d'écrire, puis c'est un peu thérapeutique. Veux pas, les chansons, c'est une belle thérapie.
Est-ce que par moment, derrière ce sourire, vous vous autorisez à craquer, Linda?
Ça fait longtemps que j'ai pleuré. Quand même, va falloir que je le fasse. Là.
Non, mais il y a souvent un point d'équilibre. C'est l'histoire du clown triste et du clown joyeux.
Ouais, j'ai eu des périodes plus difficiles dans ma vie où est-ce que j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer. Mais
notamment
je dirais que
la disparition de votre père.
Et voilà, ça a été troublant, ça a été un choc. Je pense que peut-être que un deuil comme ça, on n'a jamais fini de le faire, mais on apprend des belles choses avec tout ça aussi. Mon père, oui, il est absent physiquement, mais très très présent avec toute sa belle énergie, tout ce qu'il a donné dans sa vie d'amour existe encore, c'est fort. Puis tout le monde qui entend le plus fort, c'est mon père, ressent la vérité de ce texte-là, puis vibre encore. Donc c'est de cette façon-là qu'il est encore vivant aujourd'hui.
Je voudrais que vous me parliez des tapis d'aiguille de cette chanson.
Oui, les tapis d'aiguille, c'est le sujet, je crois, le plus délicat que j'ai eu à aborder en chanson. Mais il s'agit d'une histoire d'une jeune fille qui a eu une relation avec un... Donc une jeune fille, quand je dis jeune, là, c'est de 10 ans. qui a eu une relation avec un homme de 40 ans et qui, toute sa vie, ne s'est pas sentie victime. Elle avait des souvenirs de ça. Elle a bâti sa vie avec cette histoire-là en se disant non, mais c'était une histoire d'amour et tout ça. Puis tout l'a rattrapé alors qu'elle elle arrivait à ses 60 ans. Donc, c'est vraiment une histoire très touchante de toutes sortes de façons. Il y a beaucoup de moi là-dedans, mais c'est pas mon histoire à moi. C'est vraiment que j'écoutais une émission, puis à un moment donné, il y a une femme qui disait « OK, mais vous êtes victime. » Et la fille a dit « Mais il y a eu une hésitation. » Puis dans cette hésitation-là, j'ai vu toute cette histoire-là. Et c'est comme ça que j'ai créé cette chanson-là, « Les tapis d'aiguilles ». Mais c'en est une importante, je crois, de cet album.
Merci beaucoup, en tout cas, Linda Lemay, d'être passée dans Le Monde Élodie sur France Info. À Fleur de Corde sort aujourd'hui, avec donc ces trois dates à l'Olympia, les 7, 8 et 9 février. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Je l'avais pas revue depuis des siècles, mais je traînais dans mes narines l'après-rasage de ce mec que j'ai connu quand j'étais gamine.
Le Monde d'Élodie a eu lieu. Suigo et son invité Linda Lemay, retrouvée sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux, rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Et avant le journal, la météo avec Christine Peña, vers un week-end plus calme et un peu plus ensoleillé.
Un peu plus ensoleillé avec des éclaircies. On va les voir revenir ces éclaircies dès aujourd'hui. Les pluies seront de plus en plus espacées au fil des heures avec ce vent d'ouest qui souffle toujours fort. Il est très fort d'ailleurs, particulièrement sur la façade ouest de la Corse ce matin. Nous avons un week-end un peu plus calme, malgré tout dimanche dans le sud. Les précipitations seront de nouveau de retour. Et la semaine prochaine, eh bien, ça y est, ça redéfilera. Les perturbations seront de nouveau à l'ordre du jour.
Christine Peña, vous écoutez France Info, il est 5h31.
France Info. Jean-Christophe Martin.
C'est le coup d'envoi ce soir des Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina avec la cérémonie d'ouverture au stade San Siro à Milan, mais pas seulement car pour la première fois de l'histoire, la parade des nations sera éclatée entre quatre lieux de compétition, des clusters dans le langage olympique. Chaque site étant éloigné parfois de plus de 5 heures, il est impossible que les athlètes fassent l'aller-retour vers Milan avant les épreuves. Ce sera donc un défilé par écran interposé et forcément pour les athlètes ça n'aura pas tout à fait la même saveur. Emma Sarango.
Bien sûr, il y a d'abord de l'impatience chez le jeune snowboarder romain allemand, par exemple, qui défilera ce soir à Livigno, aux côtés des porte-drapeaux.
J'ai tous mes copains qui sont là, j'ai ma famille qui est là, donc je suis quand même content d'être là et ça va être pareil, je pense.
Mais pour ceux qui ont connu la vraie parade, 100 athlètes qui défilent au même endroit, c'est forcément une déception, reconnaît le fondeur Richard Jouve, qui va vivre ses troisièmes Jeux et sera lui à Predazzo avec une toute petite quinzaine d'autres Français.
C'est vrai que les sites un peu éclatés, pour moi, c'est moins l'esprit olympique. C'est vrai que c'est un peu le seul moment en 4 ans où on peut un peu partager du temps avec d'autres personnes. Donc je trouve ça un peu dommage.
Alors, si ce n'est pas pendant la cérémonie, comment lancer malgré tout cet élan olympique indispensable aux bons résultats ? Nicolas Scherrer, lui, n'est pas inquiet. Le chef adjoint de la délégation française sait que l'émulation viendra avec les premiers podiums.
S'il y a une médaille à Milan, d'autres clusters qui vont vouloir en avoir. Et je pense qu'il peut y avoir une vraiment émulation de créer une communauté France.
Et bien que dispersée, la délégation française sera plus nombreuse que jamais à défiler ce soir, avec 132 athlètes sur 162.
Emma Sarango. Jack Lang est convoqué au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'Élysée et Matignon demandent à l'ex-ministre de la Culture de protéger l'Institut du Monde Arabe qu'il dirige. L'exécutif estime que Jack Lang devrait penser à cette institution qu'il préside depuis 2013. Les appels à sa démission se multiplient, même au Parti Socialiste. Aucune charge ne pèse contre Jack Lang. Sa présence dans les millions de documents publié aux États-Unis sur l'affaire Epstein, n'impliquant pas de sa part un acte répréhensible, mais son nom est cité près de 700 fois. L'élève de 14 ans qui a poignardé son enseignante mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer dans le Var a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Sa victime, une professeure d'art plastique de 60 ans, est hospitalisée dans un état qui reste préoccupant. Les médecins restent réservés sur son pronostic vital. Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens, dont la Pologne, l'Allemagne ou encore la Suisse. Plusieurs centaines de lots sont concernés, dont près de 120 en France, où une vingtaine de références de Legalia et Blédilet sont citées par le site officiel Rappel Conso. Après des mois de tensions, l'Iran et les États-Unis entament aujourd'hui des négociations à Oman, que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire, Washington laissant toujours planer la menace militaire en cas d'échec. Le rugby, une entrée en lice réussie pour l'équipe de France dans le tournoi des Six Nations. Les Bleus ont largement battu l'Irlande dans le match d'ouverture avec une victoire 36-14 au Stade de France. Soirée marquée par le retour en match international d'Antoine Dupont. Vous écoutez France Info, il est 5h35.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Et si le procès en appel de Cédric Jubilard réservait des surprises? Condamné à 30 ans de réclusion en octobre dernier pour le meurtre de son épouse Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé, Cédric Jubilard vient de changer d'avocat, il veut changer de stratégie et son fils, Louis, absent au premier procès, veut cette fois venir témoigner. Bonjour David Di Giacomo.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice de France Info et vous sortez aujourd'hui avec votre service le podcast Affaire Jubilard, le procès d'une disparition.
Oui, et dans ce podcast, les principaux avocats de l'affaire se confient à notre micro. Les avocats des deux enfants du couple Jubilard, d'abord, nous révèlent que Louis, l'aîné, veut venir témoigner l'an prochain au procès en appel de son père. Il sera alors âgé de 12 ans et il veut s'exprimer devant lui, comme l'annonce Malik Hachmani, qui va l'accompagner dans sa démarche.
C'est quelque chose qui est pressant. Cet enfant, il est en train de grandir. Un procès, c'est pas régler des comptes avec son père, en fait. Pour nous, l'idée, c'est qu'il dise les choses qu'il a sur le cœur. Donc si, pour Louis, c'est important de venir parler à des juges, moi, je sais pas ce qu'il va dire, Louis. S'il est entendu, regardez-le comme un enfant qui avait que 6 ans à ce moment-là. C'est juste que il veut assister et vivre aussi à ce procès qui le concerne.
Le soir de la disparition de Delphine en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, Louis raconte avoir vu ses parents se disputer et s'empoigner dans le salon. Et pour Laurent Boguet, l'avocat de Louis, le petit garçon n'a pas tout raconté.
Moi j'ai une conviction, il nous a pas tout dit de cette soirée, Louis. Il a sans doute entendu et vu plus de choses. Et il le garde dans son traumatisme d'enfant. Toutes les déclarations que livrera Louis sur le comportement de son père, elles sont minimalistes. Ce gamin, en réalité, tout ce qu'il subit depuis la disparition, c'est Cédric Jubilard qui en est l'artisan.
Cédric Jubilard, condamné à 30 ans alors qu'il espérait être acquitté. Dans ce podcast, David, vous revenez justement sur le verdict rendu en octobre dernier.
Oui, et ce verdict, c'est clairement la douche froide pour Alexandre Martin et Emmanuel Franck. Les deux avocats nous racontent quand ils se retrouvent seuls avec leur client derrière le box des accusés, juste avant que Cédric Jubilard ne soit reconduit en prison.
Derrière la porte, c'est un moment terrible. Donc nous avons un échange extrêmement pesant, extrêmement lourd émotionnellement, où nous sommes émus. Et nous sommes avec cet homme, on fait corps avec lui. Personne n'est capable, dans ce dossier, de mettre sa main sur un billot en disant « Vous pouvez me couper la main, je suis certain que Cédric Jubilard est coupable, c'est pas possible. »
Alors moi, je crois que cet homme est innocent. Il nous l'a dit, j'en suis convaincu. Et on se raccroche au fait qu'il y a un appel et que c'est pas fini. Et donc, au fur et à mesure, l'élan repart.
Mais cet élan sera de courte durée. Le mois dernier, Cédric Jubilard se sépare de ses deux avocats. Un nouveau rebondissement, vous me direz, cette affaire n'en manque pas. Cédric Jubilard est désormais défendu par Pierre de Buisson et le pénaliste toulousain annonce une nouvelle stratégie de défense, mais sans nous dire à ce stade ce qu'il entend vraiment par là.
Alors, il faut noter aussi, David, que dans leurs derniers échanges avec Cédric Jubilard, ses deux ex-avocats lui ont donné un dernier conseil.
Oui, celui de reprendre contact avec ses deux enfants, Louis et Elia. Voilà ce qu'Alexandre Martin et Emmanuel Franck ont conseillé à Cédric Jubilard, toujours détenu et placé à l'isolement.
Je ne sais pas si les courriers arriveront, je ne sais pas si ça sera suivi des faits, mais il a entendu que Louis attendait, mais il écrit.
Moi, il me disait, si je leur écris pas, est-ce que je peux leur faire un dessin? Je lui dis, manifeste-toi auprès d'eux, puisque ils sont en demande, vous êtes le papa, vous êtes encore présumé innocent, et quand bien même un jour vous seriez définitivement condamné, ça reste vos enfants et vous restez leur père, donc ne vous réfrénez pas, et écrivez dès que vous pensez à eux.
De leur côté, Louis et Elia espèrent toujours savoir ce qui est arrivé à leur maman et où se trouve sa dépouille. Des réponses qu'attendent aussi la sœur et les deux frères de l'infirmière disparue à 33 ans. Eux qui ont fait le choix depuis le début de garder le silence dans les médias se préparent au procès en appel avec leur avocat Laurent Decaune.
Ils s'attendent à passer des moments difficiles parce qu'il faut se replonger dans la vie de Delphine avec Jubilard et dans les circonstances de la disparition et de la mort. Donc ça sera de nouveau de la souffrance. Depuis le début, ils sont là. Et voilà, c'est l'honneur de Delphine, c'est la justice pour Delphine et Delphine, c'est eux.
Cédric Jubilard sera rejugé à Toulouse au début de l'année prochaine. Il clame toujours son innocence.
Affaire Jubilard, le procès d'une disparition. C'est un podcast du service police-justice de France Info à retrouver sur l'appli Radio France et sur toutes les plateformes. Il est 6h20, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent rénover leur logement. MaPrimeRénov' va faire son retour. Le guichet fermé le 1er janvier dernier va rouvrir, comme l'a confirmé hier au micro de France Info le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun.
On avait dit très clairement que sans budget, il n'y aurait pas de guichet MaPrimeRénov'. Maintenant que le budget est enfin voté, dès la promulgation officielle du budget, nous pourrons rouvrir le guichet MaPrimeRénov', ce qui était, je crois, très attendu par nos concitoyens, mais également par les artisans qui sont prêts à intervenir le plus vite possible.
Depuis septembre dernier, MaPrimeRénov' était réservée aux foyers les plus modestes. Là, ça ne sera plus le cas. Tout le monde pourra déposer un dossier pour des travaux d'isolation ou de chauffage, tant qu'ils améliorent grandement les performances du logement.
Oui, on se concentre vraiment sur la performance énergétique. L'idée étant de pouvoir accueillir effectivement les dossiers. Après, plus la famille est modeste, plus l'aide sera importante, mais l'objectif c'est vraiment que le patrimoine des Français, le patrimoine des logements de notre beau pays se transforme pour être demain à la fois confortable en termes thermiques, mais également plus économe et moins énergivore.
On se souvient quand même l'année dernière, après la fermeture avant l'été, vous avez réservé le dispositif aux ménages les plus modestes, notamment parce que l'enveloppe globale du dispositif commençait à être épuisée. Là, vous rouvrez pour tout le monde, avec un budget constant, 3,6 milliards d'euros. Il n'y en aura pas pour tout le monde, a priori.
L'objectif, c'est d'avoir des dossiers de grande qualité. Donc, effectivement, l'instruction des dossiers va être renforcée, ce qui nous permet au passage de lutter efficacement contre la fraude. Vous savez que ça avait été un des motifs du fameux stop and go, en bon français, c'est-à-dire ce marche-arrêt permanent du dispositif, ce qu'on doit à tout prix éviter. Et merci de le rappeler, on a effectivement maintenu dans ce contexte budgétaire si difficile les enveloppes et l'ambition de MaPrimeRénov', ce qui était pour moi évidemment un enjeu extrêmement important.
Mais ce que vous nous dites sur France Info, c'est qu'il va y avoir quand même plus de sélectivité des dossiers cette année.
Le mot n'est pas tant sélectivité, mais vraiment s'assurer du sérieux des dossiers. Et le sérieux, il passe évidemment par le sérieux technique, mais également par le sérieux de lutte contre la fraude. Hein. C'est vraiment l'enjeu pour nous.
Parce que les critères, eux, restent les mêmes. Il faut gagner 2 notes de diagnostic, de classe, pour des travaux d'isolation ou de chauffage essentiellement. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, le principe, est-ce que ça va être première arrivée, premier servi, dès la réouverture?
Non, parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir des personnes qui déposent un dossier qui n'est pas complet, qui n'ont pas encore trouvé leurs artisans. Donc la logique, c'est effectivement les dossiers les plus sérieux, les plus capés. Ensuite, il faut être clair, il y a un stock important. On a terminé l'année 2026 avec un stock important. Donc il y a de toute façon des délais qui sont encore un peu longs. On va y travailler avec toutes les équipes qui, partout sur le terrain, font vivre MaPrimeRénov' pour faire en sorte qu'on essaye de rattraper un petit peu ce retard et raccourcir les délais. Mais c'est vrai que cette année, on va démarrer avec un stock important. Donc il y aura des délais qui sont évidemment un peu trop importants au goût de tout le monde, mais ça fait partie des objectifs et on espère en fin d'année avoir rattrapé ce retard.
Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, il répondait sur France Info à Jules de Kies. Comment former et recruter des experts en cybersécurité? C'est ce matin le choix de France Info et c'est dans les prochaines minutes. D'abord, l'essentiel de l'actualité.
France Info, 5h-6h.
Toute l'info en une minute à 6h moins le quart. C'est avec Diane Ferchit. Le premier titre, Diane, L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, convoqué au Quai d'Orsay.
Il va devoir s'expliquer sur ses liens avec Jeffrey Epstein, le financier criminel sexuel. Son nom figure dans les documents publiés aux États-Unis. Jack Lang plaide sa bonne foi. Il assure qu'il ignorait les agissements de Jeffrey Epstein. L'Élysée lui demande également de penser à l'Institut du monde arabe qu'il préside depuis 2013. Un mois après le drame de Grand Montana, de premières indemnisations versées aux victimes et leurs familles, 10 000 francs suisses, soit près de 11 000 euros versés par le canton du Valais, une aide d'urgence. 48 paiements ont déjà été effectués. Grand Montana, où un grand hôtel de la station de ski vient d'être fermé pour non-respect des mesures anti-incendie. L'enseignante poignardée par un élève de 3e mardi à Sanary reste dans un état préoccupant, selon le procureur de la République. L'adolescente de 14 ans a été mise en examen pour tentative d'assassinat. Il est en détention provisoire. Strasbourg, dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de foot. Les Strasbourgeois vainqueurs à domicile de Monaco 3-1. Strasbourg qui affrontera Reims en quart. Ce sera le 4 mars prochain.
France Info. Et avant le choix de France Info, dans deux minutes, et la cybersécurité, on parle d'abord de ces emballages à la fois indispensables et polluants. Le carton, le plastique, des flacons ou des sprays qui protègent les médicaments. En France, le secteur de la santé est responsable à lui seul de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Vous avez quand même pu constater que les industriels commencent à investir dans l'éco-conception pour réduire les déchets et donc la pollution générée par le secteur. Et on va d'abord dans le département du Nord.
En périphérie de Dunkerque, ce sont d'immenses hangars verts et gris qui sont alignés au milieu des champs. Ce site du laboratoire AstraZeneca produit des inhalateurs pour soigner l'asthme et d'autres troubles pulmonaires.
C'est cette machine qui nous donne la cadence.
Ici, 120 sprays sont produits chaque minute sur des chaînes ultra-robotisées. Depuis 2020, le groupe s'est engagé à réduire l'empreinte carbone de ce site ainsi que des médicaments qui y sont produits. Et cette décarbonation passe à la fois par les énergies renouvelables, explique Wella Ziri, la directrice de l'usine, mais aussi par le changement de gaz à l'intérieur des inhalateurs.
On réduit de 99,9% l'empreinte carbone si l'on compare par rapport au gaz actuellement utilisé dans nos inhalateurs. Pour le patient, ça ne change rien du tout, c'est la même efficacité, donc ce n'est que le gaz propulseur qui change.
Ces évolutions ont nécessité plusieurs années de recherche. C'est un investissement de 20 millions d'euros, indique le laboratoire.
Rendre ces inhalateurs moins polluants, c'est donc une piste, et d'autres labos s'intéressent aussi à la composition des blisters.
Oui, le blister, c'est cet emballage composé, vous savez, d'alvéoles en plastique fermées par une feuille d'aluminium. Ces plaquettes dans lesquelles sont enfermées les gélules et les comprimés sont à l'origine chaque année de 8000 tonnes de déchets non recyclables. Pauline Tabourel est responsable éco-conception pour ADELF, un organisme qui accompagne l'industrie dans la réduction des emballages. Elle travaille notamment avec Bayer et Sanofi pour repenser ces blisters.
Il faut qu'on trouve un blister sans PVC et recyclable. Et on a embarqué du coup 5 laboratoires qui vont travailler sur des alternatives, donc tendre vers par exemple un blister tout en alu ou un blister tout en plastique. Après, physiquement, dans vos mains, il ne va pas avoir un changement drastique visuellement, mais en fin de vie, on aura un vrai impact positif. On pourra traiter ces emballages et valoriser ces emballages.
Parmi les autres pistes pour réduire les déchets, il y a aussi la dématérialisation des notices d'utilisation. Elles représentent 12 000 tonnes de déchets papier chaque année. Elles pourraient être remplacées pour certains médicaments par un QR code sur la boîte. Là encore, une expérimentation est en cours sous la houlette de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Anne Le Gall, il est 5h47. Comment former et recruter des experts en cybersécurité? C'est ce matin le choix de France Info. Dans un contexte où les attaques informatiques se multiplient, l'Université de Lorraine a organisé cette semaine avec le ministère des Armées un exercice nature de cyberguerre à Nancy pendant 3 jours. C'est le plus grand événement de ce type en France. Tout était fait pour que ce soit le plus réaliste possible, avec tentes militaires, vrais soldats, nuit sur place et même rations de combat. Bonjour Noémie Bonin.
Bonjour.
Et ils étaient 120 étudiants à y participer.
Les étudiants sont répartis en trois équipes représentant trois pays inventés.
Anumérique, Cryptanga et Pandalore.
Qui se disputent l'hégémonie dans leur région du monde. Le décor est réaliste, des tentes militaires sont installées dans ce gymnase, des soldats postés à chaque entrée et des jeunes très concentrés devant leur ordinateur. Objectif pour cet étudiant ?
Prendre le contrôle de plus de machines adverses et essayer de les ralentir le plus possible.
Pour arriver à ses fins, il teste par exemple des mots de passe basiques pour tenter de rentrer dans le réseau des adversaires. Ou technique plus concrète,
lâcher des clés USB au sol avec des protocoles malveillants, disons, en espérant qu'ils cliquent et qu'ils acceptent.
Ça paraît facile, ça, non?
Oui, mais ça, c'est ça qui fonctionne le plus.
Quelle heure tu auras le miroir?
Il me donne aucune info sur l'avancée.
Chaque étudiant a un rôle attribué comme dans une armée.
Moi je suis lieutenante et lui il est sous-lieutenant.
Vous êtes là pour les secouer un petit peu quoi? Vous avez mis le treillis carrément.
J'aime beaucoup tout ce qui est aspect militaire, etc. J'aimerais beaucoup rentrer dans l'armée, donc forcément j'y vais à fond. Ça permet en fait de vraiment visualiser ce que c'est que cette partie-là de l'armée.
Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce type d'exercice?
Tout au long de mes 3 ans d'études, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est le moment de montrer que je les ai correctement apprises, que je les applique correctement. Ça permet de se faire du réseau.
Si jamais tu peux ping le 17, mais que la requête ARP uniquement passe en 18, ça se trouve, il bloque à la passerelle.
Alors, on ne comprend pas forcément tous les détails, mais en tout cas, il s'agit bien de mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour remporter cette cyberguerre.
Alors justement, Noémie, est-ce que tout se joue uniquement sur cet aspect informatique ?
Alors non, cette année, pour la 6e édition de l'exercice, différentes filières universitaires sont représentées.
Ok, alors, Premier ministre de qui, lui ?
Il y a des étudiants en communication et en droit.
Par exemple, puisqu'on va pouvoir, au cours de cet exercice, essayer de faire de la désinformation pour porter préjudice à la réputation des différents pays.
Le but, c'est de vraiment influencer les populations et qu'elles s'allient, entre guillemets, à notre cause.
Là, on est dans une tente militaire, vous avez des polaires un peu spécifiques, ça fait vraiment camp militaire pour de vrai. Quel rôle ça joue dans votre exercice ?
Bah, je pense que ça nous permet de nous mettre réellement en condition, même de voir des personnels en treillis. Je sais que tout à l'heure, pour accéder à nos tentes, il fallait nous montrer nos badges à des gardes frontières. Donc je pense que ça nous permet de nous mettre mieux dans notre rôle et d'être plus efficace, alors que si on était peut-être dans un amphi sur nos ordinateurs, on serait peut-être moins impliqué, il y aurait moins d'enjeux.
Voilà, vous l'avez compris, tout est fait pour que cet exercice soit le plus complet et réaliste possible. D'ailleurs, le scénario a été mis sur pied par le commandement de la cyberdéfense du ministère des Armées en s'inspirant de l'actualité.
Et justement, pourquoi l'armée s'investit à ce point dans cet exercice à destination d'étudiants ?
Eh bien, il s'agit à la fois de détecter des talents, mais pas seulement, explique le capitaine Jonathan.
Il y a effectivement une question de recrutement, parce qu'on a actuellement 4900 cybercombattants dans les armées. L'objectif affiché est 5500 en 2030. Donc il faut tout le temps recruter, donc c'est un objectif. Par contre, on sait très bien que sur les 123 qui sont ici, peut-être que 2, 3, 4 seront intéressés. Et ce sera déjà très bien. Mais après, plus globalement, ils vont vivre une expérience dont ils pourront reparler, qui va leur apprendre des choses, avec des savoir-faire qu'ils pourront peut-être également diffuser. Donc il y a aussi cette idée de cohésion nationale et de résilience globale dont la nation a besoin, parce qu'on est dans une période de crise et, a priori, malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter.
La cybersécurité est un domaine qui continue de se développer, car il y a de plus en plus d'informations qui passent par Internet, de plus en plus de flux financiers aussi, ce qui attire les cybercriminels. C'est donc un secteur très attractif pour les étudiants, défend Rémi Badonel. Il représente l'école d'ingénieurs télécom Nancy.
On a vraiment des besoins en cyber partout, dans le secteur de la défense, bien évidemment, mais aujourd'hui, on a des diplômés dans tous les secteurs d'activité, dans l'industrie, dans la santé, dans les transports, même dans des secteurs auxquels on ne s'imagine pas. Par exemple, on a des anciens qui travaillent chez Chanel. C'est important pour eux de sécuriser leur plateforme informatique et de protéger leur image de marque.
Le dernier rapport de l'Observatoire du numérique prévoit en France 25 000 postes à pourvoir d'ici 2030 dans le domaine de la cybersécurité.
Le choix de France Info, signé ce matin, Noémie Bonin, à retrouver en intégralité sur franceinfo.fr. Et tout de suite à 5h52, le réveil de l'écho.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Avec Emmanuel Cugny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité économique en trois titres. La création d'usines est au plus haut en France depuis 2013.
Selon le cabinet Trendéo, dont les résultats font foi en la matière, il y a eu beaucoup plus de fermetures que d'ouvertures de sites industriels en France l'année dernière. Après un pic historique en 2021 et 2022, le solde net replonge en territoire négatif. 63 entreprises créées en moins sur un an, précisément. Le décrochage est particulièrement marqué chez les PME. Par secteur, l'enquête de Trendéo fait apparaître deux France industrielles. D'un côté, les branches en bonne santé, comme le traitement des déchets, l'énergie ou l'aéronautique. L'industrie pharmaceutique oscille autour de zéro. Et puis de l'autre, il y a les secteurs qui connaissent un déclin structurel continu depuis 2009. Produits métalliques, imprimerie, fabrication de meubles, métallurgie, textile et bien sûr automobile.
Du nouveau pour le transport de marchandises sur le Rhône.
Oui, une barge fluviale pouvant transporter jusqu'à 156 conteneurs va être lancée pour la première fois en 2028 sur le Rhône, donc pour décarboner et développer le transport de marchandises entre le port de Fos-Marseille et Lyon. Projet initié par l'armateur de Marseille, CMA-CGM. Alors cette initiative qui vise à renforcer le transport de fret par voie fluviale en France face à la multiplication des camions sur les routes. La barge de 185 mètres de long sera à propulsion hybride, c'est-à-dire à carburant et en électricité.
Et Amazon affiche de bons résultats pour 2025.
Oui, le géant américain de la distribution et de l'informatique affiche pour le seul quatrième trimestre 2025 un bénéfice net de 21 milliards de dollars, ça fait environ 19 milliards d'euros. 77 milliards de dollars si on prend l'ensemble de l'année. L'activité a été tirée notamment par une nette hausse de son activité dans les serveurs et les centres de données.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Alors que la réindustrialisation de la France est un sujet très politique, notamment à l'approche des élections municipales, deux usines du sud de la France qui fabriquent de la pâte à papier sont aujourd'hui menacées par une autre activité, la revente de l'électricité qu'elles produisent. On ira voir sur place à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, et à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, ce qu'il en est précisé.
Le Brief Éco à 6h23. À tout à l'heure, Emmanuel. Et tout de suite, il est 6h05. C'est la playlist du jour avec Diane Ferchit et la question, Diane, des droits d'auteur qui s'invitent à ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina qui commencent ce soir.
Oui, dans la catégorie patinage artistique, vous avez peut-être entendu parler du patineur espagnol Tomás Tioren Guarino Sabaté, le sportif qui concourt pour la première fois au JO, a cru que tout son programme court était à jeter à cause de sa bande-son. Une chanson tirée du film « Moi, moche et méchant », Guarino Sabaté s'est entraîné dessus toute la saison. Et la semaine dernière, il a appris qu'Universal ne l'autorisait pas à l'utiliser. Il en avait pourtant fait la demande l'été dernier, mais sans réponse. Vous imaginez bien, Jean-Christophe, qu'à quelques jours des Jeux, c'était impossible pour l'athlète de changer tout son programme. Mais heureusement, grâce à la mobilisation sur les réseaux sociaux, Universal a fini par revenir sur sa décision.
Et cette question des droits d'auteur, Diane, elle empoisonne de plus en plus cette discipline.
En fait, le problème vient de la licence dite de synchronisation, la négociation des droits pour pouvoir faire une chorégraphie synchronisée sur de la musique. Les délais peuvent être très longs. Et puis, il y a aussi la question de l'utilisation des extraits sur les réseaux sociaux. Aux Jeux de 2022, ce sont ainsi les patineurs américains médaillés d'argent qui se sont retrouvés en difficulté lors de l'épreuve par équipe pour avoir utilisé cette chanson. Le groupe Evie Young Eaton savait attaquer les patineurs en justice, ainsi que la chaîne NBC qui retransmettait l'épreuve et la Fédération américaine de patinage. Alors ils ont trouvé un accord à l'amiable, hein. On ignore le montant de cet accord, mais on parle de plus d'un million de dollars. De quoi vous imaginez bien effrayer toutes les disciplines artistiques qui sont confrontées au même problème. Et pour voir la performance de Tomás Tioren Guarino Sabaté, qui sera déguisé en personnage des Mignons, un personnage de ce film « Moi, moche et méchant », rendez-vous mardi, ce sera à partir de 18h30 pour le programme « Cours Homme sur la glace de Milan ».
« La playlist avec Diane Ferschit. Dans un instant, la météo avant le prochain journal à 7h.
France Info Météo avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
La météo avec Christine Peña. La mauvaise nouvelle, Christine, c'est qu'il y a toujours de la pluie. La bonne, c'est qu'il y en a de moins en moins.
De moins en moins, voilà. Poussé par le vent, effectivement, les pluies vont s'espacer. On a un peu de neige, tiens, sur le nord des Alpes pour aujourd'hui. Mais ce week-end, pas de neige fraîche attendue. De la grisaille le matin, certainement. Voilà, sinon les éclaircies vont prendre effectivement de plus en plus de place. Le soleil s'impose dans le sud. Nous avons pas mal de vent, là, surtout ce matin sur l'ouest de la Corse. Et puis des températures toujours d'un bon niveau. Pour la saison, cet après-midi, 11 à Strasbourg, 12 à Clermont-Ferrand, à Lille, à Paris, au Havre, 14 à Lyon, comme à Montélimar, jusqu'à 15 dans le sud-ouest, Bordeaux, Toulouse, Tarbes, mais également à Marseille, et jusqu'à 17 à Perpignan et Bayonne. Et pour ce week-end, eh bien oui, le soleil aussi reprend un peu sa place, surtout samedi dans le sud-ouest, jusqu'au nord-est, jusqu'à Paris. Dimanche, on a de nouvelles pluies pour le sud, et puis surtout, les perturbations reprendront du service de plus belle pour la semaine prochaine.
Christine Peña, il est presque 7h et pour 3 nouvelles heures d'infos, c'est Thomas Séchier qui nous accompagne. Bonjour Thomas.
Bonjour Jean-Christophe, presque 6h. Vous n'êtes pas encore bien réveillé, mon cher Jean-Christophe. Bon, ravi de vous retrouver en tout cas en ce vendredi matin. Toute l'équipe de la matinale qui est là. Christine Peña, bien sûr, pour la météo. Solène Cressan.
Bonjour à tous.
Pour le journal de 6h. Jour un peu particulier parce que c'est le début des Jeux d'hiver en Italie. Cérémonie d'ouverture à vivre ce soir sur France Info. On est content quand même de se replonger dans l'esprit de ces Jeux, un an et demi après les Jeux de Paris. Alors, quelle chance de médaille pour la France ? Comment va se dérouler la cérémonie ce soir en Italie, prévue dans 4 sites différents, hein, en simultané ? On en parle bien sûr tout au long de la matinée sur France Info. Bon réveil, nous sommes le vendredi 6 février et il est 6h.
France Info, 6h09.